J'aimerais commencer avec un texte dans le livre d'Éphésiens, si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec moi. Chapitre 4, à partir du verset 20, on va lire cette verset. Traduction de ce monde, ce sera possible. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. Puisque vous avez compris ce qu'il est, et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, il n'y en a que deux, mais ils sont là. On va pas se plaindre. On aimerait qu'il y ait plus de bruit et qu'il y en ait plus. Je reprends. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. Puisque vous avez compris ce qu'il est, et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité, ce qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. C'est pourquoi, débarrassez du mensonge que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Seigneur, nous te demandons encore que tu fasses ce miracle de toucher nos cœurs par ta parole, qu'elle soit vivante, brûlante en nous, que derrière les mots, les expressions et tout ce qui est utilisé, que la réalité de ta vie vienne toucher la nôtre pour nous transformer à ton image, Seigneur. Amen. Ce texte est particulier, il nous parle d'un processus qu'on va un petit peu voir ce matin, avec plusieurs applications pratiques pour nous. Apparemment, les Éphésiens avaient quand même, comme nous tous, tendance à dévier un petit peu de ce qui leur a été enseigné, puisque Paul les reprend un peu, en disant « c'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ ». Et puis je me posais cette question, qu'est-ce qui signifie pour nous ? En fait, je me posais la question, qu'est-ce qui signifie pour moi ? C'est une chose intéressante, quand on va partager l'évangile dans la rue, on pose des questions aux gens, et puis des fois on se dit, je devrais commencer par me poser les questions avant de les poser aux gens. On le fait aussi, hein, mais qu'est-ce que signifie le Christ pour moi ? C'est qui ? Bon, c'est vrai que le mot Christ veut dire celui qui a reçu l'onction, hein, c'est un titre, c'est pas un nom. Non, c'était Jésus, mais il avait le titre de Christ, ouin, celui qui est envoyé pour accomplir une mission. Et vous avez entendu et vous avez compris ce que signifie le Christ. On pourrait s'arrêter là-dessus, prendre un moment et rentrer chez nous, et on aurait déjà bien avancé ce matin. Mais je vous laisse ça un petit peu comme un défi pour cette semaine d'y réfléchir. C'est qui le Christ pour moi ? Est-ce que ça fait partie de mes placements, de mes assurances, des outils pour le confort dans ma vie d'aujourd'hui, hein ? J'ai un petit siège rembourré sur ma siège en bois pour pas que ça fasse mal. J'ai mon assurance pour la vieillesse. J'ai la clim dans ma voiture. Puis j'ai Christ aussi. Ça fait partie des choses qui sont là pour que je me sente bien. Est-ce que c'est autre chose? Qui il est? Est-ce que je le connais? Est-ce que, hein? Sans accusation, parce que c'est pas son ministère du tout. Mais se poser cette question, et se la poser quand je lis les Écritures, ça change tout. Parce que c'est lui qu'on cherche là-dedans. C'est pas quelque chose ou des idées, des choses à faire. C'est lui qu'on veut rencontrer. Puisque vous avez compris ce qu'il est, et qu'on vous a enseigné à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Là, il y a un rappel qui est très très important, j'en parle souvent, mais la vérité n'est pas une somme d'idées, c'est une personne vivante, et la vérité ne m'appartient jamais. Des fois je la rejoins, des fois non. Des fois, j'y entre dedans et je suis dans la vérité, et puis des fois non. Mais personne ne peut dire j'ai la vérité. Le seul qui l'a dit et qui a le droit de le dire et qui le redit, hein, c'est Jésus. Je suis la vérité. C'est pas je connais la vérité ou je vais vous écrire la vérité ou je suis la vérité. On a les grands je suis de Jésus-Christ. Donc qui est le Christ ? Ben, on a aussi ces éléments-là qui vont avec. Et puis Paul continue et dit, il parle d'un aspect de la vérité parce que bien sûr. Il faut prendre bout par bout, parce que pour nous, c'est pas possible. Hein. qui consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Le mot débarrasser veut dire poser quelque chose loin de nous. Je ne sais pas pour vous, mais s'il y a des choses qui vous tentent, je ne parle pas ici de choses extrêmement mauvaises. Hein. Moi, j'aime beaucoup lire, comme vous savez, donc j'ai toujours un livre ou deux à côté de moi, pour profiter des quelques secondes qu'il peut y avoir. Et un exemple classique, matin, j'allume mon ordinateur, bon, mon courrier, voir ce qu'il y a à faire. Je sais que mon ordinateur, maintenant, il est un peu chargé. Il faut un peu plus d'une minute pour se charger. Donc, pendant cette minute, plutôt que de rien faire, j'ouvre mon livre et je lis. Puis, s'il traîne un peu, c'est pas grave, hein. Puis après, je pose mon livre et je commence à regarder mon courrier. Puis le livre est là, quoi. Et puis, bon, je réponds à un mail et puis je pourrais lire une page ou deux entre deux mails quand même. Hein. Et je sais que si je me lève pas, que je prends pas le livre et que je vais pas le mettre loin, je vais pas être très efficace dans l'heure qui va suivre, quoi. Du mal à résister à la tentation. C'est exactement ce que veut dire ce mot dans le texte original. Cela consiste à vous débarrasser. C'est pas dans le sens de dire, il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas. Mais il y a des choses qu'il faut éloigner de nous. Parce que si elles sont à côté, j'y peux rien, quoi. Pour d'autres, c'est autre chose, bien sûr, mais. De votre ancienne manière de vivre. C'est pour ça que, nous n'avons pas à essayer de nous transformer nous-mêmes, ça on va le voir, hein. Mais par contre, je suis responsable des priorités que je mets dans ma vie et de la façon dont je l'organise. On sait tous que si on dit, quand j'aurai un moment, je prierai, ce moment, on l'aura jamais. Quand j'aurai un moment, j'appellerai quelqu'un dans l'église. J'aurai jamais ce moment. Quand j'aurai un moment, si je suis libre samedi prochain, j'irai au cours passerelle. C'est une blague. Quand je dis ça, j'ai déjà décidé que j'irai pas. Quand je veux faire quelque chose, on le sait tous, je le mets d'abord, puis le reste se remplit autour. Et dans nos vies avec Dieu, on peut pas faire la part de Dieu, on peut pas se transformer, on peut pas devenir meilleur, on peut pas changer notre cœur. C'est lui qui le fait. Il y a une chose que je peux faire, c'est mettre certaines choses loin pour laisser de la place et que Dieu mette d'autres choses près de moi. Donc vous débarrassez de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. Pas besoin de trop développer ça, on sait tous, hein. Malheureusement, quand on peut faire ce qu'on voulait faire de façon égoïste, même si on l'a, c'est pas ce qu'on voulait, ça nous détruit. Vous rappelez le mime avec quand on veut vraiment quelque chose, on l'obtient. Et parfois, c'est ce qu'on voulait vraiment qui va nous tuer. Ça arrive. Et à être renouvelé par le changement de ceux qui orientent votre pensée. Être renouvelé dans notre façon de penser. Et en fait, la vérité qui se trouve dans la personne de Jésus-Christ est la seule chose qui peut nous transformer, puisqu'il va changer notre façon de penser. C'est pas nouveau, vous savez tous, ma façon de penser détermine qui je suis, détermine ce que je fais. Et donc, c'est pas contre mes actes qu'il faut que je lutte, il faut que je lutte pour laisser de la place à Dieu pour qu'il change ma façon de penser. Dans ma façon naturelle de penser, ce qui était important, c'était ça, 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 les priorités, c'était ça, ça et ça, et puis, c'est comme ça. Et puis, j'ai beau le reprendre, y réfléchir, c'est logique, c'est comme ça. Mais si Christ vient et change ma façon de penser, tout d'un coup, je m'aperçois, je pensais que c'était important, cette chose-là, mais elle l'est pas. Cette chose-là, elle était primordiale dans ma vie, elle a pas vraiment de valeur. Par contre, cette chose-là que j'avais laissée de côté, elle est essentielle. C'est de ça que j'ai besoin. Et puis, c'est extraordinaire parce que, vous savez, l'homme naturel, donc, qu'il soit chrétien ou pas, la plupart du temps, pour que je sache que j'apprécie quelque chose, il faut que je l'ai perdu. C'est triste, hein. C'est quand j'ai plus quelque chose que je me dis, eh zut, c'était bien, hein. Alors si c'est un petit détail, c'est pas grave. Quand c'est quelqu'un qu'on aimait, c'est triste. Quand c'est des choses plus importantes. Mais la seule façon d'échapper à ce constat systématique, qui est, eh, j'ai eu ça, j'ai pas su en profiter. Et maintenant que c'est plus là, je m'aperçois que c'était bien. Eh zut, je le ferai plus. Je le refais toujours, toujours, toujours. La seule façon d'échapper à ça, c'est que Christ vienne renouveler mes pensées. Parce que du coup, il change ma façon de déterminer mes priorités, ce qui est important, ce qui l'est pas, et je vais pouvoir apprécier quelque chose de bon pendant que je l'ai. C'est incroyable. C'est un privilège, c'est quelque chose de merveilleux. Hein. Que de temps en temps dans nos vies, on puisse se dire, après avoir vécu un moment, après avoir partagé quelque chose, après avoir expérimenté, se dire, ça c'est quelque chose qui remplit l'âme et je viens de le vivre. Et puis, j'en veux encore. Et puis, si je meurs maintenant, ben, au moins ce moment-là, il avait de la valeur. Plutôt que, une fois que c'est parti, se dire, ah, si j'avais su, j'aurais pu, j'aurais dû. Hein? Donc, revêtir d'un nouveau qui crée conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. On va pas faire une analyse grammaticale ce matin, mais c'est la vérité qui le produit. Le problème, c'est que soit on ne fait pas d'efforts, soit on les fait au mauvais endroit. Hein. Soit je laisse aller ma vie, elle coule comme elle veut. Soit tout d'un coup, je me dis, ma vie va pas, je suis pas un bon chrétien, et alors là, je me bats avec le péché. Il faut plus que, il faut plus que, il faut plus que, il faut. Perdu d'avance. Hein. Vous savez que le péché, quand on lui oppose, il faut plus que, c'est comme si vous envoyiez déjà un mec costaud faire de la musculation. Plus il en soulève, plus il est fort. Quoi. Donc, il faut plus que, il faut plus que, c'est génial. Ça fait des gros bras à ma chair. Elle est toute contente après. Elle a des muscles. Non. C'est la vérité qui change ma façon de penser et qui fait que je suis libéré du péché. Tant que je reste persuadé que cette chose-là, qui en fait n'est pas bonne pour moi, est bonne pour moi, il n'y a rien à faire. Je vais la vouloir. Lorsque ma pensée change et je réalise, c'est du poison ce truc-là. Ça me tue, ça me détruit, ça détruit mes enfants, ma famille, mes voisins. Et cette chose-là, elle est bonne. Ah, mes goûts ont changé. Ça devient facile. C'est pour ça que la vérité, en nous libérant du mensonge, nous permet d'évoluer. Et on arrive à ce passage. Vais verset 25. C'est pourquoi débarrasser du mensonge. Et c'est intéressant parce que le mot débarrasser ici, c'est le même qui était utilisé deux versets plus haut. Hein. Vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, allez le poser loin. Et là, il est dit, vous débarrasser du mensonge, allez le poser loin. Que chacun de vous dise la vérité à son prochain. En méditant sur ce verset, en réfléchissant, je ne crois pas que ce verset parle simplement, ça peut s'y appliquer, hein, au mensonge dans le sens où on l'utilise habituellement. C'est-à-dire, par exemple, je vais dire, je vais calomnier quelqu'un grossièrement. Hein. Hier, j'ai vu Thomas, et puis alors, il venait de voler une voiture, il était sous, et puis il s'est enfui avec, quoi. D'accord? Ah, c'est un mensonge, c'est pas vrai, et puis la Bible me dit que je dois plus dire des choses comme ça. Évidemment, je dois pas inventer des choses comme ça. Mais je crois que ça parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Quand il est dit, rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, qu'est-ce que la vérité? On a dit que c'était Christ. Hein? Donc pour nous, la vérité, c'est l'expression de la pensée de Christ. Lorsque je regarde mon frère, ma sœur, je dois savoir comment Christ pense au sujet de cette personne. Qu'est-ce que dit Christ de Virginia? Qu'elle est sainte, juste, pure, parfaite, hein? À cause de l'œuvre de Christ. Mais c'est comme ça qu'il parle d'elle. Quand moi je dis de Virginia, ouais, elle est gentille, mais elle est quand même un peu, hein? Ouais, elle est sympa, mais si elle était un peu moins, t'es devant, excuse-moi, t'es quelqu'un. Hein? Ouais. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai l'impression que je mens pas, parce que c'est vrai qu'elle s'est mise en colère et qu'elle m'a dit quelque chose qui est. Hein? Non. Mais je suis en train de mentir. Pourquoi? Je parle pas selon la vérité. Hein? Et avant que je développe plus ça, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour pouvoir faire ça, il faut que j'apprenne à le faire vis-à-vis de moi-même. Je me lève le matin et qu'est-ce que je pense? Pas toujours, mais la plupart du temps. C'est rare quand même, je crois, quand on arrive devant la glace, enfin, passé un certain âge en tout cas, qu'on se dise, comme le psaume de David, hein, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je suis un homme merveilleux et je t'en loue, Seigneur. Hein? Pas tout à fait ce qui nous vient à la pensée, d'accord? À juste titre. Dans un sens, la glace ne ment pas, le miroir ne ment pas, hein? Il renvoie ce qu'il y a en face. À l'envers, mais c'est quand même ça. Hein? Et pourtant, il y a une autre vérité. C'est ce que Dieu dit. C'est la vérité. Hein? Quand Jésus parle de moi, qu'est-ce qu'il dit? Alors que moi, je suis là devant le miroir en train de me dire, ah là là, puis le miroir, c'est rien. Parce qu'on peut ne pas en mettre, ne pas se regarder. Hein? Mais le miroir de notre âme, lui, il est là. Hein. Et j'ai encore échoué là-dedans, et j'ai encore ces pensées tordues, et il y a encore lui qui me gonfle, et j'ai pas envie d'aller bosser, et il y a encore là qui va arriver, et j'ai envie d'en étrangler un ou deux, ça me ferait du bien. Ah! Hein. Et puis, en même temps que je pense comme ça, je me dis, et je suis chrétien, et hier j'étais au culte, hier j'ai prêché, j'ai témoigné, j'ai annoncé l'évangile, et je suis un hypocrite, et je suis fatigué de ça. Ça m'épuise. Et puis Dieu me dit, je vais te dire la vérité. Tout ce que tu penses que tu es en mal, ben, d'une part, c'est pire que ce que tu crois. Ça commence mal. Mais voilà ma vérité à moi. Je te vois à travers Christ, et pour moi, tu es le plus beau, tu es le meilleur, tu es le seul, tu es l'unique, tu es mon préféré, je t'aime. Je peux même pas te dire que je donnerai tout ce que j'ai pour toi parce que c'est déjà fait. Mais je l'ai fait. Et c'est encore valable aujourd'hui. Alors vis cette journée à cette hauteur-là. Avec cette dignité-là. Et en plus de tout ça, je te fais ambassadeur. Tu as ma carte de crédit, tu as mon tampon, et tu vas me représenter. Mais ça, c'est la vérité. Lorsque je pense de moi en me disant hey, « je suis un minable, je suis un raté », ou alors « je suis meilleur que les autres », c'est la même chose. Hein. C'est deux manifestations de la même maladie. « Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes » ou « Seigneur, je suis misérable, je ne suis pas aussi bien ». C'est la même chose. Dans les deux cas, je suis dans le mensonge. Dieu dit « pourri, mais tu l'es plus que ce que tu crois ». Même quand tu penses faire le bien au maximum, c'est de la saleté. Donc t'inquiète pas, je le sais déjà, je ne suis pas surpris, c'est pire que ce que tu crois. Par contre, hein, la nouvelle nature que je t'ai donnée, l'homme nouveau qui se renouvelle chaque jour, il est fait à partir d'une modification génétique qui vient, hein, on t'a greffé Jésus-Christ dessus. Et ça a changé sa nature. Cette nature-là, moi quand je la regarde, je te vois déjà parfait. Alors, parle comme ça de toi. Parce que le problème est là, hein, ce que je supporte pas chez les autres, c'est ce que j'accepte pas chez moi. C'est insupportable les défauts des autres quand c'est les miens. Je peux pas. Les défauts que j'ai pas, je peux avoir de la compassion pour les autres. Je les plains. C'est peut-être de l'orgueil, mais c'est facile. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. J'y arriverai. Un jour, vous serez comme moi. Hein. C'est facile. Mais les défauts que j'arrive pas à maîtriser chez moi quand je les vois chez les autres, c'est une horreur. Je veux les recouper la tête. J'ai l'impression que je pourrais me débarrasser de moi. Hein. Donc, pour parler selon la vérité à mon prochain, je dois commencer par parler selon la vérité à moi-même. C'est difficile. Mais repensez aux psaumes. On a étudié quelques psaumes dernièrement, c'est dimanche. Sans arrêt, on dirait que les psalmistes sont schizophrènes. Et je dis à mon âme, il fait quoi là? Il parle à qui? Hein? Et je dis, oh mon cœur, sois courageux. D'accord, c'est un peu de la poésie, mais non, il y a une réalité. C'est qu'il y a ces deux choses qui s'affrontent à nous. On n'est pas schizophrène, on est une seule personne. Il y a ce que je suis sans Christ, et puis c'est une catastrophe, parce que, un, ça s'améliore pas, ça s'améliorera jamais, la Bible le dit, et deux, plus j'avance avec Dieu et plus j'ai de lumière, plus je perds mes illusions et je vois mieux ce que je suis pas. Donc c'est catastrophique. On le dit souvent, mais quand je suis venu à la foi, c'est vrai que j'étais jeune, j'avais que 10 ans, j'avais pas eu beaucoup de temps de péché. Mais, 10 ans, c'est pas mal, mais c'est moins que 50. Hein. Mais j'avais quand même plein d'illusions, quoi. Seigneur, en me sauvant, t'as fait une bonne affaire, parce que quand même, je suis gentil. Hein. Je fais pas ça, je fais pas ça, je fais pas ci. Aujourd'hui, avec la lumière que j'ai, c'est la catastrophe. Il n'y a rien qui va bien. Et puis je dis pas ça pour vous amuser. C'est la réalité avec laquelle je me bats tous les matins. Hein. Mais en même temps, je grandis aussi dans cette compréhension. Dieu m'a pardonné, il m'a racheté, il me voit autrement. Et ça, c'est la vérité dans laquelle je veux vivre. Sinon, ou je suis hypocrite, ou je suis orgueilleux, ou je suis découragé, il n'y a pas d'alternative. Et lorsque ce travail va se faire en moi, je vais pouvoir petit à petit commencer à parler à mon prochain selon la vérité. Ça ne veut pas dire que je deviens idiot et naïf à un point qu'on pense que je suis stupide. J'ai bien vu que Virginia avait mauvais caractère, je le sais, tout le monde le sait. Pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant, c'est enregistré. Ce sera sur Internet. Le monde entier le saura. Non, c'est pas vrai. Mais, je sais que je suis pareil. Et que comme Christ m'aime, il aime. et qui lui la déclare sainte, parfaite et pure, et puis qu'il est fier de l'avoir comme représentante. Dans le monde visible, dans le monde invisible, pensez à l'histoire de Job. Hein. Lorsque le diable et ses démons viennent voir Dieu, parce qu'apparemment ils se rencontrent des fois dans la Bible, hein. Dieu les appelle et leur dit, venez voir ici. Hein. Vous avez vu Virginia? C'est ma chouchou, c'est ma préférée. Vous avez vu comme elle est belle? Elle fait tout bien, elle ne rate rien, elle est parfaite. Dit, ouais, mais quand même, il me semble que... Non, ça c'est... Il y a l'œuvre de Christ, ça y est plus. Ça. Oui, mais quand même, non. Puis j'en suis fier. Hein. Quand je commence à comprendre ça et que je la vois, je me dis, mais c'est vrai, c'est comme ça. Et si je lui parle selon la vérité, et qu'on fait ça les uns avec les autres, on va être transformé. Parce que dans ce travail-là de ne pas se mentir à soi-même en disant ce que Dieu dit, c'est quand même difficile tout seul. Hein. Parce que j'y arrive 2 minutes, puis 2 minutes après, il y a le miroir qui est là et... Mais normalement, une des raisons d'être de l'Église, je ne parle pas du bâtiment, d'une association, ni quoi que ce soit, hein, du regroupement des chrétiens, c'est pas la seule, mais une des raisons d'être, c'est celle-là. Ça devrait être un lieu de guérison où chacun arrive là un peu, qui va pas quelque part, et puis les gens, oh, qu'est-ce que tu es beau, pas dans cette façon-là, mais c'est extraordinaire. Ils vont me voir comme Dieu me voit, et ça va me libérer. Et en même temps, je vais découvrir, il y a un endroit au moins où je peux être ce que je suis, et on va pas me fusiller, on va pas s'en servir pour me détruire. Je sais plus où c'est que j'ai lu cette citation il y a pas longtemps, mais je trouvais ça très très beau qui disait, vous saurez que vous êtes vraiment aimé quand quelqu'un verra vos défauts et ça ne servira pas pour prendre autorité sur vous. Ça c'est vraiment de l'amour. Parce que quand je me m'imagine que la personne que j'aime est parfaite, hein, ce qui se passe quand on est amoureux au début en général, j'ai aucun mérite, je vois pas ses défauts. Elle est tellement belle. Je connais un jeune couple comme ça, ils se connaissaient depuis 6 mois. Ils me disaient, on ne pourra jamais se disputer dans toute notre vie, c'est pas possible. On est tellement parfaitement fait l'un pour l'autre. Hein? Avec les yeux qui faisaient des courants d'air, ça faisait soulever les feuilles mortes, vous savez, là, flap, 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 flap. C'est bien, il faut laisser ce moment-là, il est magnifique. Hein? Mais quand, quelques années plus tard, ou dizaines d'années plus tard, ça dépend des gens, hein, quand la taille de guêpe se transforme en guêpe de taille, quand les choses ont changé, hein, et là, je connais le point faible, et puis l'autre m'agresse. Et je sais comment je peux lui faire autant mal que ce qui m'a fait mal. Parce que je sais où ça fait mal. Hein. Je connais ses défauts. Et là, je dis, non, j'ai pas le droit de me servir de ça. C'est faux, c'est mensonge. Et je réponds à l'autre dans l'amour. C'est là qu'on commence à savoir qu'on s'aime vraiment. Puis on peut pas le faire sans l'aide de Dieu, en tout cas pas régulièrement. Mais c'est ce dont on a besoin. Et ça, c'est vrai dans le corps de Christ. Parce que c'est la même histoire. Hein. C'est quelqu'un arrive dans une église, il est nouveau, qui se convertit ou qui vient d'ailleurs. Tout le monde l'aime, il est génial, et lui trouve tout le monde génial. J'ai enfin trouvé une église géniale, ils sont super, ils sont accueillants, ils m'aiment, c'est génial. Puis oh, on a un nouveau membre, là, vraiment, avec celui-là, c'est super. Ben, revenez dans 2 ans. Ça, non, mais je suis pas défaitiste, mais c'est normal, c'est humain. Hein? Alors oui, on peut changer sans arrêt, comme ça, on va retrouver ça peut-être, mais c'est pas vrai. Non, je dois apprendre à vivre en disant la vérité selon Dieu. Mais il y a un passage qui est très important qu'on n'a pas encore abordé, puis j'arrive au bout. Hein. Débarrassez-vous du mensonge, que chacun dont on le met loin, que chacun de vous dise la vérité à son prochain, donc je commence par moi, puis il y a le prochain. Nous sommes, nous, pas membres les uns des autres. Mettez-vous en colère. Les vieilles traductions n'ont pas osé traduire, c'est un impératif présent pourtant. Hein. Si vous vous mettez en colère, on a un peu édulcoré, quoi. Non, c'est un impératif présent. Mettez-vous en colère, 3 points d'exclamation ou plus. Mais ne commettez pas de péché. Donc se mettre en colère, c'est pas forcément péché. Jésus s'est mis en colère, hein, et il n'y avait pas de péché en lui. Puis sacrée colère, il a tout cassé. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil, ne donnez aucune prise au diable. Et là, il y a un principe extrêmement important. Qu'est-ce qui détruit le plus les gens? Le cancer de l'âme, c'est l'amertume. Puis d'ailleurs, ça peut produire même des cancers physiques, et des ulcères, et des hémorroïdes, et beaucoup d'autres choses. Ça mange. Pas toujours, mais c'est pas la seule cause. Hein. L'amertume. L'amertume, c'est une saleté. C'est vraiment... C'est un truc qui vient droit de l'enfer. Hein. Ça se met discrètement quelque part dans le cœur de l'être humain. Ça se voit pas à l'extérieur. Et ça ronge de l'intérieur. Et quand un jour ça éclate dehors, quelle horreur. Parce que ça veut dire que tout l'intérieur est infecté. Et puis ça fait du tort, ça fait du tort. Ça se multiplie, ça déchire, ça empêche de dormir. Ça coupe l'appétit, ça vole le plaisir, ça vole la joie. C'est une saleté. Encore, j'essaie de rester poli. D'où vient l'amertume? Du fait que, un, je sais pas me mettre en colère, et que deux, je sais pas régler ma colère dans la journée. C'est de ça que vient l'amertume. Hein. Chaque fois que je viens à l'église, il y a cette personne qui me dit cette chose-là comme ça, ça me fait mal, mais je lui dis pas. Je lui dis, ça me fait plaisir de te voir, parce que je suis un bon chrétien, et je rentre chez moi, et tout le trajet du retour, c'est là à l'intérieur, ça. Je mets du scotch sur la bouche parce que j'ai peur que si je l'ouvre, le monstre sorte, quoi. Hein. Mais je l'avale. On met mon mouchoir dessus. Vous connaissez l'expression? C'est horrible. Hein. Moi, j'ai que des mouchoirs jetables. Se mettre le mouchoir dessus, c'est une horreur. On le garde et c'est dégueulasse. Hein. Puis on le soulève, on en remet dessous, on le remet dessus. Ah, vous avez vu? Vous êtes bien écœuré? Comment ça comprendre? Bon, si vous voulez sortir un moment, vous pouvez prendre l'air. Hein. L'amertume, c'est pire que ça. Sérieusement, comment je peux l'éviter? Mon frère m'a blessé, il m'a fait mal, il a peut-être pas fait exprès, il a fait exprès, j'en sais rien. Je me mets en colère. Alors, si vous étiez latin comme moi, hein, votre colère, ça serait violent, peut-être. Hein. On est en Suisse, je m'attends pas à ce que quelqu'un hurle. Mais vous allez aller voir la personne, c'est ça se mettre en colère pour un Suisse. Hein. Excuse-moi de te déranger, s'il te plaît, si tu as une petite seconde. Je suis sûr que tu l'as pas fait exprès, c'est sûrement moi qui ai mal compris. Mais quand tu as dit ça, c'est sûrement de ma faute. Hein. Je l'ai très très mal vécu, et maintenant je t'en veux, il faut qu'on règle ça. C'est ça se mettre en colère en Suisse. Mais si on faisait au moins ça, hein? Alors c'est sûr qu'en Italie, c'est « Qu'est-ce que tu m'as fait, mec? Mais quoi, pourquoi ?» Puis 5 minutes après, on prend l'apéritif ensemble, c'est réglé. C'est plus facile, on est habitué à se crier dessus. Quand je suis arrivé en Roumanie, que je savais pas le roumain, j'avais l'impression que les gens se disputaient tout le temps. C'était normal, ils parlaient, ils disputaient pas. On avait quand on les connaissait pas, on avait l'impression qu'ils étaient en colère, quoi, pour la moindre chose. Mais c'était beaucoup plus simple. Ils se disaient les choses, ils se jetaient à la figure. Bon, après, il faut le régler dans la journée, quand même, hein. On a jusqu'au coucher du soleil. C'est pour ça que moi, j'aime me mettre en colère au mois de mai, juin. Le soleil se couche tard. On a quelques heures de plus. Se mettre en colère un 21 décembre, c'est pas une bonne idée, je vous le dis, hein. Faut régler ça vite. Hein. Ou alors, il faut s'y mettre à 6h du matin. Non, mais sérieusement, hein, que le soleil... Mettez-vous en colère, hein, et que le soleil, la journée ne se termine pas dessus. Et là, il y a deux façons. Parce que vous savez, vous pouvez pas... Vous pouvez rien faire à la place des autres. Même pas de votre femme, de votre enfant, de votre père ou mère. Hein. Donc, quand la Bible dit « Mettez-vous en colère et puis ne péchez pas », ça veut dire que je vais voir la personne, je lui explique. Et puis si je me mets en colère, je me mets en colère ou d'une façon ou d'une autre. Mais je lui dis, je le formule, je l'exprime. Peut-être la personne va bien réagir en me disant, oh, mais j'ai jamais réalisé en disant ça que ça pouvait te faire du mal. Je l'ai dit effectivement dimanche après dimanche, mais pour moi, ça vaut aucun... Alors, je suis vraiment désolé, je te demande pardon. Elle est soulagée, je suis soulagé. Ça, c'est le bon cas, ça peut arriver. Mais il va arriver des fois aussi où vous allez vous heurter à quelqu'un qui va... Ça va être pire après. Oui, mais quand je dis ça, c'est ce que je voulais dire, parce que franchement, avec la vie que tu as, c'est normal que je te dise ça. Ouf, et je fais quoi avec ça, hein? Là aussi, je dois le régler dans la journée, parce que sinon, ça recommence. Hein? Donc, ça ne veut pas dire que si je fais ça, tout va toujours bien se régler, mais ça veut dire que pour moi, je l'ai réglé. Parce que soit la personne, bon, on se comprend, il y avait un malentendu, on règle ça, c'est fini, soit... Il y avait peut-être de l'animosité dans son cœur. Peut-être que la personne a des problèmes d'amertume qu'elle n'a pas réglé. J'y peux rien, moi. Je peux pas le faire à sa place. Alors là, je dois aller à Dieu et puis dire, Seigneur, l'injustice, tu connais. Parce que le seul acte vraiment, vraiment, vraiment injuste qui s'est commis sur terre, hein, c'était que Christ soit crucifié. Il y a d'autres actes injustes, hein. Un enfant qui meurt en bas âge, des gens qui ont... C'est injuste. Mais la vraie, vraie, vraie injustice, c'est que Christ soit mis à mort. C'est le seul qui est saint, c'est le seul qui est sans péché, c'est le seul qui a rien fait de mal. Et non seulement il a rien fait de mal, mais il a fait le bien autour de lui partout et tout le temps. Et qu'est-ce qu'il reçoit en récompense? Le fouet, les clous, la couronne d'épines, la lance dans le côté, le mépris, la trahison, tout ce qu'on peut imaginer, il a pris. Ça, c'est vraiment injuste. Son père qui tourne le dos, même si c'est pas à cause de lui, mais c'est comme ça pour nous. Donc, rayon injustice, qui en connaît le plus? C'est Jésus-Christ. Et pas de façon théorique, hein. C'est pas un truc, il était au ciel, il a vu sur un écran, ouais, l'injustice, ça a l'air horrible, ce truc-là. Hein. Non, non. Il était homme comme nous, sans péché, mais homme comme nous. Quand il a été trahi par quelqu'un avec qui il avait passé 3 ans tous les jours, c'était une trahison, c'était horrible. Quand ses disciples comprenaient rien, quand sa famille l'ont rejeté, et puis au niveau physique, le fouet, ça lui a fait autant mal que c'était à vous ou à moi. Hein, c'est pas parce qu'il était Dieu que c'était, oh, ça me chatouille, c'est sympa, ah, les clous, super, j'aime les clous. Je me moque pas en disant ça, mais c'est parce qu'on a des idées tellement bizarres. C'était un homme, c'était horrible. Donc trahison, injustice, souffrance, quoi qu'on puisse vivre dans ce domaine-là, il connaît. Donc lorsque je me mets en colère, je vais voir mon frère, je lui dis, et puis j'en prends encore plus à la figure que ce que j'en avais avant. Notre réaction naturelle, c'est dire, bon, ben, la prochaine fois, je remettrai mon mouchoir dessus. Non! Mais par contre, ce que ça fait, c'est que ça m'oblige à aller voir Christ et puis lui dire, j'ai fait ce que tu m'as dit et voilà ce que j'ai pris dans la figure. C'est encore pire qu'avant. Si tu viens pas faire un miracle dans mon cœur, là, aujourd'hui, moi, je vais mal dormir et demain, j'ai de l'acide dans l'estomac et après-demain, je m'achète un revolver et un silencieux. Il faut que tu fasses quelque chose. Et je vous promets que si on va sincèrement à Dieu, et je dis pas que ça se fait en 2 secondes, mais qu'on lui apporte ces choses-là, on va pas oublier ce qui s'est passé. Je vous dis pas que le lendemain, la personne, ça sera votre meilleur ami, vous vous réjouirez de la voir, vas-y, frappe encore sur l'autre joue. Non, non, c'est pas comme ça. Mais il va faire quelque chose. Et il va enlever l'amertume. Parce que, je vais terminer avec ce verset, Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, afin qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Le seul antidote à l'amertume, c'est la grâce. C'est déjà pas mal, il y en a un. Hein? Que me dit la grâce? Je m'approche de Dieu et je dis, ouais, Seigneur, j'aimerais bien que tu règles le problème là, Virginia, parce que franchement, ça fait longtemps qu'elle est comme ça, ça change pas. J'aimerais que tu sois juste. Dieu me dit, tu veux que je sois juste? Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Oui, je veux que tu sois juste. Bon, ben, je vais être juste. Alors, tous les êtres humains vont en enfer, sans billet retour. Seigneur, je voudrais que tu sois juste avec eux. Non, hein. Juste, juste. Ouais. Pas juste le blanc, non, mais juste, juste. Ouais. Donc, l'antidote à l'amertume, c'est que ouais, si Dieu était juste, on est tous la poussière, à l'enfer. Alors, je veux pas que Dieu soit juste. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Oui, mais comment tu peux l'avoir si tu la refuses aux autres? C'est pas que Dieu veut pas me la donner, mais je suis incapable de donner aux autres ce que j'accepte pas pour moi. C'est en effet comme ça, hein. Donc du coup, j'allais dire même de façon égoïste, pour pouvoir moi me l'approprier, parce que Dieu lui la donne, hein, pour pouvoir me l'approprier, je suis obligé de dire à Dieu, mais alors, il faut que je pardonne. Sauf que je sais pas le faire, mais il faut que je le fasse. Alors viens le faire dans mon cœur. Et je parle pas ici des ressentiments émotionnels qui peuvent durer, hein. Selon ce qu'on a vécu, je sais très bien qu'on peut dire, je veux pardonner, on demande à Dieu. Et puis, le lendemain matin, il y a toujours des blessures dans notre cœur. On va lui redemander peut-être toute notre vie. Hein. Paul était dans cette catégorie-là. Hein. J'ai prié plusieurs fois et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Parce que vous savez, en tant que chrétien, on est des malades incurables. Mais il existe un traitement. Si je le prends, alors, selon les cas, c'est tous les jours, 3 fois par jour. C'est minimum tous les jours, hein, mais ça, 3 fois par jour, c'est à peu près normal. Après, les cas très graves comme moi, c'est toutes les 5 minutes, hein, quand ça va bien. Sinon, c'est toutes les 10 secondes. Sans arrêt revenir à Christ Seigneur, c'est encore moi, j'ai encore échoué. J'ai encore besoin de ta grâce, s'il te plaît. Pas de problème. Nous, ce qu'on aimerait, c'est être comme Obélix. Vous savez, il est tombé dedans quand il était petit. Il n'a plus besoin d'en prendre. Non? On est comme Astérix. Quand la gourde est vide, il faut retourner voir Panoramix. Seigneur, j'ai encore besoin de la grâce de Dieu. Et il nous dit jamais, mais je viens de t'en donner il y a 3 secondes. Hein? Il dit, hey, t'es un bon consommateur, hein? Super. Parce que lui, il a produit, il en a toujours. Et je vais la chercher. Donc que personne ne se prive de la grâce de Dieu, je passe à côté, afin qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. C'est une racine. C'est une racine type chien dent, bambou. Vous savez, ce genre de racine, coupée à la surface, plus vous coupez à la surface, dessous, et le jour, ça tombe partout, on ne peut plus rien faire. Il faut un désherbant systémique qui remonte jusqu'à la racine. C'est la grâce de Dieu. J'en ai besoin, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Alors, ne nous en privons pas. Parlons de nous-mêmes selon la vérité. Parlons des autres selon la vérité. Et, bon sang, mettons-nous en colère. À la suisse, à l'italienne, à la française, comme vous voulez. Mais disons-nous les choses plutôt que de s'éviter. Hein? C'est trop triste. Le but, c'est pas de pas se disputer, c'est de se dire les choses et de les régler. C'est comme ça qu'on progresse. Parce que pour pas se disputer, on doit mettre de la distance. Moi, je suis jamais impressionné par un couple qui me dit, on se dispute plus. Je suis même un peu inquiet. Vous vivez encore ensemble? Vous voyez encore? Quand je dis vivre ensemble, on peut être dans la même maison sans vivre ensemble. On se dispute plus. J'évite tous les sujets délicats, il évite tous les sujets délicats, je rumine dans mon coin, elle rumine dans son coin. On est tous dans l'amertume, mais on se dispute plus. Non. Mettez-vous en colère et vous avez jusqu'au soir pour régler ça. Seigneur, on te demande de prendre toutes ces choses, de les mettre dans nos cœurs et d'en faire de la nourriture, d'en faire du carburant pour nos vies spirituelles, d'en faire de l'énergie pour nos vies avec toi. Que pour chacun, ça puisse prendre la forme des besoins de notre cœur. Nous nourrir, nous corriger, nous amener plus près de toi. Et nous permettre de vivre l'Église les uns avec les autres, Seigneur. Nous avons désespérément besoin de toi, c'est pas une formule, et tu es le seul qui puisse le faire. Alors viens nous guérir, et viens nous apprendre à dépendre de toi moment après moment, Seigneur. Merci pour cette matinée, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu vas encore faire, Seigneur. Amen.